Comment voulez-vous prendre la parole après ça? Peut-être quelques mots de présentation, parce que vous ne nous connaissez pas. Nous n'appartenons pas aux assemblées ménonites, nous sommes des assemblées de frères. C'est quand même assez proche quelque part, et on se retrouve sur bien des plans. Et puis quand j'ai entendu Jean-Claude, j'avais l'impression qu'il était venu dans notre église. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne l'ai jamais vu le dimanche matin pourtant. Courte présentation. Alors, moi je n'ai jamais été pasteur et j'étais jeune ingénieur quand j'ai démarré ma carrière évangélique, si je puis dire. Et puis, l'ensemble de ma carrière s'est surtout fait comme dirigeant d'entreprise et engagé en même temps dans l'église, puisque dès 1967, avec Alain Chouatier, nous avons commencé à fonder l'église de Paris Nation. Et puis ensuite, nous avons fondé d'autres églises. C'était la grande période de l'essaimage. Donc nous avons fondé d'autres jeunes églises. Et avec Paris Nation, nous en avons fondé 14 au total. Donc Saint-Maur, d'où nous sommes aujourd'hui. J'ai été pendant 25 ans ancien d'église. Puis à un certain moment, j'ai laisser la place à d'autres, parce qu'il faut savoir se retirer. Et dans l'intervalle, donc, tout en menant ma carrière professionnelle assez prenante, j'ai en même temps occupé différentes autres fonctions en même temps que l'Église, puisque j'étais président et fondateur d'une association de jeunesse, L'Eau Vive, avec Brian Tadford. Et après, j'ai mené quelques grands événements comme la présidence de la fête de la jeunesse en 1985. Avec Philippe, en 1986, nous sommes occupés des finances de Mission France avec Billy Graham. Et puis, pendant 24 ans, j'ai été président de l'Institut biblique de Nogent, président de l'Alliance évangélique universelle avant que nous nous réconcilions avec la FEF. Française, oui, pas universelle, française, oui. Avant que nous nous réconcilions avec la FEF pour déboucher sur le CNEF. Et puis, je suis maintenant président du CEL. J'ai quitté aussi la présidence de l'Institut biblique de Nogent. 24 ans, c'était suffisant. Et comme j'avais déjà 6 ou 7 ans de conseil d'administration précédemment à Nogent, donc voilà, c'était tout ça. Je l'ai mené avec, bien sûr, une vie familiale, puisque nous sommes mariés depuis près de 53 ans maintenant avec Edith. Nous avons 3 enfants. Elle s'est demandé si j'allais parler de la famille. Je peux vous dire. Et nous avons 5 petits-enfants, dont l'aîné a bientôt 30 ans et la plus jeune 11 ans. Donc voilà un petit peu le très très rapidement brossé. Et je suis à la retraite depuis 12 ans, enfin ce qu'on appelle la retraite professionnelle. Et je prends le temps quand même d'écrire quelques livres, parce que j'ai estimé qu'à un moment il était bon de pouvoir partager. Donc ici Farrell a envoyé 3 livres, Laïque à plein temps, qui est un peu notre parcours écrit avec ma femme sur cet engagement en tant que laïque dans l'église, puis Les nouveaux leaders spirituels, qui est un peu une réflexion sur l'église et l'entreprise, et le dernier sur l'échec comme premier pas vers la réussite. Voilà. Le thème que je dois aborder ce matin est vaste et à géométrie variable. Il dépend en effet de la situation de chacun, célibataire, couple avec ou sans enfant, actif ou retraité, grands-parents ou pas, urbain ou ruraux, salarié ou indépendant. Ça dépend aussi de son arrière-plan personnel et ecclésial, des circonstances, du tempérament de chacun, de sa compréhension des Écritures et de sa perception de l'utilité ou non de son implication dans ce qu'on appelle communément la vie d'Église. Ce n'est pas en théologien que je ne suis pas que je m'adresse à vous aujourd'hui. Mon propos est celui d'un responsable engagé dans la société et dans l'Église. C'est donc à travers une expérience de vie, accompagnée d'une étude et d'une méditation des Saintes Écritures, que j'ai grandi et que je vais vous partager ce qui m'apparaît important de considérer. Un parcours fait de succès et d'échecs, de joie et de souffrance, de satisfaction personnelle et de frustration. Même si nous veillons à demeurer en prise avec notre temps, notre aventure, puisque j'y associe mon épouse, entamée il y a plus de 50 ans, accuse sans aucun doute un décalage avec ceux qui, aujourd'hui, s'engagent dans ce chemin de foi et de service. Je ne crois ni aux hommes orchestres, ni aux surhommes. Pour ma part, j'ai dû affronter des situations auxquelles je n'étais pas préparé, à gérer des imprévus et le déséquilibre, à accepter mes limites. J'ai compris qu'entre l'idéal et le possible, il pouvait exister une marge me conduisant à refuser une fausse culpabilité sans pour autant m'entraîner vers une mise en retrait injustifiée. Que la loi des Mèdes et des Perses, et parfois des responsables d'église, qui rendait immuable tout décret promulgué par le roi, ne doit jamais prendre le pas sur le plan que Dieu a pour ma vie. Et même si je ne comprends pas toujours sa volonté, je demeure assuré de sa souveraineté. L'engagement du chrétien ne se limite pas à l'activité ecclésiale, comme nous l'a si bien rappelé Jean-Claude au travers de tous ces exemples. Il est familial, professionnel, culturel, social, voire supralocal. Chaque individu, chaque famille doit pouvoir trouver les cadres qui peuvent le mieux en concilier les divers aspects, tout en sachant que ce qui vaut pour un temps et peut parfois être doit être reconsidéré pour répondre à un besoin spécifique ou accompagner un changement. Nos choix et nos décisions peuvent ne pas être compris. Dans ces conditions, l'Église se gardera de porter un jugement, mais veillera à ce que la bienveillance permette de donner en permanence une chance à la relation. Ces préalables étant posés, je crois qu'il est bon, pour pouvoir y revenir, de nous souvenir de paroles bibliques que nous pouvons avoir reçues et qui constituent un fondement à notre appel, soit à notre engagement personnel, fonctionnant comme des marqueurs dans notre parcours. Pour ma part, j'ai trois textes qui constituent ce socle. L'un pour moi-même, c'est un texte que j'ai reçu alors que je n'étais pas chrétien, dans ma ferme en Algérie, militaire, et la Bible que m'avait envoyée, celle qui allait devenir ma femme. C'est Josué, le chapitre 1, les versets 5 à 9. Puis, notre verset de mariage, Romains 12, 12. Je ne vous les lis pas parce que le temps nous manque, mais vous pourrez les relire. Et enfin, dans l'exercice de mes responsabilités professionnelles, Michée 6, 8. Pour la plupart de nos contemporains, la répartition du temps se fait entre le travail, la famille, le repos et les loisirs. Le travail est souvent une obligation, la famille une responsabilité, le repos une nécessité et les loisirs un choix faisant partie de ce qu'on appelle le temps libre éveillé. L'engagement du croyant s'inscrit dans cette dernière plage de temps. Je vous propose d'examiner en première partie ce qu'il convient de retenir dans le plan de Dieu concernant la famille et le travail. Il ne s'agit pas de développer ces différents thèmes, mais de nous donner des repères pour chacun de ces domaines. Dans la deuxième partie, l'engagement dans l'Église. Notre compréhension ou notre adhésion peut varier sur l'un ou l'autre des aspects que nous évoquerons. Il n'est pas certain que nous soyons tous et toujours d'accord. Ce qui est important, c'est que, au stade où chacun en est arrivé, il puisse percevoir ce à quoi Dieu souhaiterait l'inviter. Et pourquoi pas, en quoi je peux être appelé à reconsidérer les modèles qui fondaient jusqu'à ce jour mon action. En conclusion, je conclurai en vous suggérant trois aspects pratiques pour vivre le moins mal possible les frustrations ou les tensions auxquelles nous devons faire face. Dans le plan de Dieu, précisons que le plan de Dieu pour nos vies n'est pas un saucissonnage des diverses facettes de notre existence. Il forme un tout dans lequel s'inscrit notre parcours, chacun de ses aspects contribuant à notre maturité. Rappelons-nous qu'en dehors de Dieu premier servi, nos implications prioritaires peuvent nous conduire à modifier les principes que nous aurions établis. Rien n'est jamais figé. La vie est un mouvement, et à ce titre, elle nous réserve son lot d'inattendus qui peuvent nous déconcerter, voire nous déstabiliser. Il nous faut faire le tri, sans que cela soit pour autant antinomique entre ce qui est culturel, coutumier et biblique. Citoyens des cieux et de la terre, nous n'éviterons pas les interrogations. La Bible ne nous dit pas tout. Ses silences sont aussi autant d'appels à exercer notre discernement, à formuler nos choix, à prendre nos responsabilités, qui sont aussi respectables. La famille, une responsabilité partagée. Dans le Décalogue, le cinquième commandement, « Honore ton père et ta mère », fait la transition entre la première et la seconde table de la loi, entre les devoirs verticaux et les devoirs horizontaux. Il est de plus assorti d'une promesse, « Afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne ». Le mariage doit être considéré comme l'acte fondateur de la famille. La famille n'est pas une institution sociale quelconque imaginée par les hommes. Elle est une structure créationnelle qui trouve sa norme dans la famille divine trinitaire. Pour Jean-Marc Domas, qui s'exprime ainsi et qui rajoute « Dieu veut utiliser les familles pour faire fonctionner et progresser l'Alliance et pour en réaliser les promesses. » Pour Michel Lionner, dans la Bible, l'idée de la famille occupe une place extrêmement importante. La filiation, la paternité, la généalogie, la descendance, la nomination, l'alliance sont des thèmes qui ressurgissent pratiquement à tous les stades de l'histoire de la révélation. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, rappelle qu'il fléchit les genoux devant le Père de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. La famille est une institution et une structure d'apprentissage où l'enfant va découvrir le juste rapport entre l'autorité et la liberté, entre la dépendance et l'indépendance, entre l'amour et l'obéissance. La responsabilité partagée des parents en matière d'éducation et de transmission, notamment de la parole de Dieu, est essentielle. La famille est un lieu de solidarité où chacun a sa place, où les divers rôles ne sont pas interchangeables ni réversibles. La famille reste une structure hiérarchique dans laquelle la position d'autorité des parents est respectée à cause du Seigneur. Une responsabilité partagée ne signifie pas pour autant que nous devrions, père et mère, répartir à l'identique et à égalité l'ensemble des tâches. Je pense que le bon sens, le réalisme, un point de vue commun et la confiance sont par contre indispensables pour assurer en complémentarité les obligations qui nous incombent en tant que parents. L'élément essentiel pour tenter d'y parvenir doit se fonder sur un amour réciproque qui puise ses ressources en celui qui en est la source. Notre idéalisme dans ce domaine risque d'être mis à mal dans la réalité du quotidien, nous invitant à nous souvenir que le pardon lui donne la dimension nécessaire pour poursuivre humblement notre marche de parents. Chaque famille est différente, même si l'enseignement et les fondements apparaissent identiques. Chaque être est un individu unique. Les résultats visibles, entre parenthèses, ou de notre regard sur les autres, les résultats visibles peuvent nous amener à être confrontés au regard des autres, même dans l'Église, ou de notre regard nous-mêmes sur les autres, la compassion plutôt que le jugement, aimer de manière inconditionnelle devient un apprentissage qui peut se faire dans la douleur et dans les larmes. Aimer l'autre pour ce qu'il est, sans obligatoirement aimer ce qu'il fait. Et nous pouvons en parler avec Edith par expérience familiale. De mon point de vue, remettre en cause la famille ou la détruire, c'est s'attaquer au plan de Dieu. La déifier, c'est de l'idolâtrie. Nous pouvons cependant être interpellés par l'attitude de Jésus qui semble reconsidérer la continuité de l'ancienne alliance. Le disciple qui décide de suivre Jésus doit faire des choix radicaux. Il lui faudra aimer Jésus plus que son père et sa mère, que son fils ou sa fille. Il lui faudra peut-être voir quitter sa maison, ses frères et sœurs, père, mère ou enfant. Suivre Jésus peut donc devenir conflictuel au sein de la famille. Ainsi semble émerger l'idée que la nouvelle alliance, au travers de l'Église, nous propose une vision élargie de la famille, où chaque disciple, quel que soit son statut, marié ou célibataire, trouve sa place dans un service à la gloire de Dieu. Ça méritera sans doute quelques questions. Le travail, un service à assumer. Le travail occupe une grande partie de notre temps et de notre vie. Il mérite donc une attention particulière pour en tirer le meilleur profit. Mais le travail, comme pour la température, il y a le fait et le ressenti, influencés par un facteur extérieur qui en modifie la donnée objective. Les avis sur le travail et les citations ne manquent pas et sont variables. Ainsi pour Jean de La Fontaine, qui considère dans la fable du laboureur et de ses enfants que travailler, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins, qui me fut répété lorsque j'étais enfant. À Henri Salvador, mais là j'étais plus âgé, qui chantait que le travail c'est la santé et que ne rien faire c'était la conserver. Quel que soit le sens qu'on lui donne, il est évident que l'absence de travail est beaucoup plus destructive que l'inverse. L'homme, créé en image de Dieu, est appelé au même titre que son créateur à œuvrer en développant une activité. Au terme des 6 jours de la création, Dieu semble en tirer satisfaction, ce que nous dit le texte de la Genèse, chapitre 1, verset 31. Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. Je ne suis pas sûr que nous puissions toujours tirer les mêmes conclusions de notre fin de semaine de travail. Si la lecture de la Bible peut nous conduire à dégager un certain nombre de considérations, notamment éthiques, en matière de travail, nous n'y trouvons pas stricto sensu une théologie du travail. Frédéric de Coninck, l'un des vôtres, dans son ouvrage « Agir, travailler, militer », nous propose plutôt une théologie de l'action, plus englobante, moins restrictive, puisqu'elle prend notamment en compte l'aspect du bénévolat. Pour notre réflexion sur le travail, je voudrais attirer votre attention sur 4 points. La lecture des 3 premiers chapitres de la Genèse nous amène à considérer qu'à l'origine, le travail voulu par Dieu a pour but le bien et la joie de l'homme, chapitres 2 et 3 de la Genèse. Ce, dans un cadre idéal et dans des conditions optimales. Et que la chute, au chapitre 3, dont l'homme est responsable, en modifie les conditions en le faisant fardeau et source de souffrance. Placé dans le jardin d'Éden, L'homme a pour mission de le cultiver et de le garder. Le mandat divin qui lui est adressé le conduit à devenir gérant de la création. Le premier aspect, donc, que je voudrais souligner et que je retiendrai, serait donc notre responsabilité dans notre manière d'appréhender notre travail. Me conduit-elle à faire fructifier ce que Dieu me confie ou à le détruire? Cette question ne dépend pas du fait que nous faisions ou non le travail que nous aimons, mais dans la situation qui est la nôtre, de la façon dont nous allons agir dans notre travail, c'est-à-dire de nos comportements et de nos pratiques. Après la chute, le travail n'est pas devenu malédiction. Ça, c'est le péché. Mais ce sont les conditions qui se sont trouvées changées. Peine, souffrance, difficulté, la sueur de ton front. L'ensemble de la Bible renferme de nombreux récits qui nous montrent cette souffrance dans laquelle s'accomplit le travail. La pénibilité ne se mesure pas seulement au type de travail que l'on effectue, mais aussi aux conditions dans lesquelles il s'effectue. Faire des briques pour les Juifs esclaves en Égypte était sans doute fatigant, mais les faire sous le soleil, à cadence imposée et boostée par le fouet du superviseur, le rendait pénible. Le travail, donc, c'est ma deuxième remarque, devient épreuve et comme tel, il convient de réfléchir à notre manière de l'aborder. C'est-à-dire, dans quel esprit et pour quelle finalité. Ainsi, comme l'écrivait Pierre Chaunu, le travail sous le regard de la mort est absolument vain. C'est ce que semble d'ailleurs exprimer l'Ecclésiaste dans la première des vanités. Dit-il, quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. En tant que chrétien, enfant de Dieu, l'utilité de cette épreuve se doit d'être abordée sous un autre éclairage. Et pour prendre un peu les terminologies à Pierre Chaunu, je dirais qu'il faudrait l'aborder sous le regard de la vie éternelle. Cette nouvelle vie qui nous a été accordée en Jésus-Christ. Si d'un côté le travail nous prive de liberté quant à notre temps, par le revenu que nous en tirons, il nous affranchit de certaines contraintes. Mais en faire une finalité ne reviendrait qu'à s'appauvrir. Alors, c'est ma troisième remarque sur le travail, parce que le travail revêt une valeur, qu'il soit accompli dans des conditions pénibles ou pas, nous pouvons le considérer comme un service utile. Utile pour nous-mêmes, nous permettant de développer nos dons, mais utile aussi pour les autres, dans l'échange, la solidarité, le respect de l'autre et l'attention que nous leur portons. Le lieu professionnel devient espace de témoignage par la manière dont nous vivons le travail. Le travail peut être aussi vécu comme une vocation divine. Mais tout le monde ne s'accorde pas sur ce point et donc je ne m'engagerai pas dans cette voie. En dernier lieu, et quatrième point concernant le travail, et sans le développer, je retiens le quatrième commandement qui reprend le principe créationnel qui consiste à se reposer après que nous ayons effectué notre ouvrage. Ce temps devient donc un temps de rupture qui doit être utilisé à bon escient et notamment pour nous permettre de nous ressourcer physiquement, psychiquement et spirituellement. Je ne développe pas, mais je renvoie chacun à sa compréhension du repos. Alors, quid de l'engagement dans l'Église? Si la présence au culte, aux études bibliques et à la réunion de prière malgré toutes les difficultés qui nous ont été présentées ce matin, semblent être des prérequis à l'exercice de la piété pour la plupart de nos membres d'Église, l'engagement dans un service est bien souvent considéré comme une option à envisager, sans pour autant lui accorder une importance qui pourrait requérir un investissement raisonnable. Les raisons pour ne pas s'engager sont multiples. Je ne les examinerai pas, je vous renvoie à mon livre « Laïc à plein temps », vous en trouverez quelques-unes. Et puis, il suffit à titre personnel d'en simplement dresser la liste pour chacun d'entre nous. Pourquoi je ne peux pas m'engager ? Et là encore, Jean-Claude nous a toute bonne raison. Alors, comment et sur quel fondement inviter chacun à consacrer du temps et de l'énergie pour l'Église ? Où vont-ils puiser la motivation suffisante pour assumer leur engagement ? Et que vont-ils trouver en face qui leur permettra d'espérer et de persévérer ? Autrement dit, comment arriver à ce que nos membres d'Église passent de l'engagement éphémère à l'engagement durable ? Un véritable défi à relever. Pour convaincre, nos discours ou nos exhortations ne suffisent pas. Il est vrai que nous sommes sauvés pour servir. Mais il est aussi vrai que de ne pas servir ne nous dépossède pas de notre salut. Nous nous privons simplement du privilège qui consiste à voir Dieu à l'œuvre dans nos vies et dans celles des autres. Si nous sommes prêts à être associés à l'héritage céleste, partie intégrante des promesses que Dieu nous a faites, pouvons-nous nous imaginer nous mettre en retrait en ne nous associant pas à la construction du royaume dont Christ est l'héritier et dont nous sommes les co-héritiers. Je me propose donc, dans le temps qui reste, et avant de conclure, d'aborder le thème sous les angles suivants. Les fondements de l'engagement, la nature de l'engagement, les conditions de l'engagement. Les fondements. Toute thèse ou toute action, intent soit peu sérieuse, se doit de reposer sur des fondements crédibles et vérifiables. En matière de foi, la révélation constitue un fondement sur lequel peut se construire un engagement. La révélation a pour objet la personne de Dieu et son dessein à l'égard de l'humanité. Sous toutes ses formes, elle est mise à la portée de tous les hommes, quels qu'ils soient. La création, premier aspect de cette révélation, n'est pas seulement accessible aux chrétiens, mais Paul affirme que les non-croyants connaissent ainsi la vérité au sujet de Dieu, mais qu'ils la retiennent injustement captive, les rendant donc inexcusables. Si la nature nous amène à nous interroger sur le dessein de Dieu, la Bible, parole inspirée, nous aide à progresser dans la découverte et la connaissance de ce Dieu, nous dévoilant depuis la chute le plan de salut qu'il a conçu pour l'éternité, plan dont l'accomplissement final de cette révélation devient visible et tangible par l'incarnation, le sacrifice et la résurrection de Jésus-Christ. La décision sur laquelle va reposer notre engagement n'est pas liée à notre bonne volonté ni à notre désir de servir. Elle ne s'appuie pas non plus sur nos capacités, ni sur nos compétences ou nos ressources. Si la tête et le cœur sont requis et nécessaires, ils ne doivent pas en être les seules et uniques sources. Ces raisons purement humaines ne feraient que nous fragiliser quand surgiraient doutes, obstacles et difficultés. Au risque de me trouver même en désaccord avec certains, j'avancerai la pensée que la seule conviction d'un appel de Dieu constitue sans doute un motif sérieux et valable, mais n'est pas suffisant pour constituer un appel, un fondement à mon engagement. L'appel est sans conteste un déterminant à l'obéissance, mais il n'en demeure qu'un moyen dont Dieu se sert pour que nous puissions le servir. Le but ultime de la révélation et par voie conséquence de la fondation, du fondement de notre engagement, c'est la démonstration de l'amour de Dieu et de sa grâce manifestée en Jésus-Christ. Dieu s'est engagé pour nous, c'est le sens des paroles de l'apôtre Paul dans sa lettre aux Romains, au chapitre 3, les versets 23 et 24, ne devons-nous pas nous engager pour lui ? La nature de l'engagement. S'engager, c'est poser un choix qui doit se traduire en acte. On ne s'engage pas dans l'Église parce qu'il faut être engagé. C'est absurde. À l'inverse, utiliser ce propos pour ne pas réfléchir ou refuser la perspective d'un engagement est irresponsable. On peut, pour un temps, et pour diverses raisons, ne pas être engagé. Mais il m'apparaît que cette situation ne peut être qu'exceptionnelle. Les formes d'engagement étant infiniment variées, chacun devrait trouver celui que Dieu lui a réservé. D'autre part, j'aimerais souligner que l'engagement, comme l'attribution des dons, ne se différencie pas en fonction du sexe. Même si des prédispositions apparaissent dans l'un ou l'autre domaine. Cependant, il faut reconnaître et respecter que l'ecclésiologie à laquelle on se rattache puisse, sur certains points, varier dans la compréhension et dans la mise en œuvre d'un engagement spécifique. Vous voyez à quoi je peux faire allusion. Concernant la nature de l'engagement, il faut distinguer entre ministère et fonction. Ces deux aspects ont une même finalité, servir. C'est ce qui fait la richesse de l'Église. Le ministère est rattaché à un don spirituel, lequel est donné par le Saint-Esprit qui l'accorde selon son bon vouloir. C'est une manifestation de la souveraineté de Dieu. Les dons sont généralement accordés divers et en complémentarité. Ils sont donnés, nous dit la Bible, en vue de l'édification du corps au sens de l'Église en général et de la communauté sur un plan local. Ces ministères, selon leur nature, peuvent donc revêtir un caractère sédentaire ou itinérant. Ceux-ci sont généralement la résultante d'un appel de Dieu. La fonction fait appel à des aptitudes que Dieu nous a naturellement accordées. Ces compétences peuvent être mises à disposition pour répondre à un besoin spécifique, ponctuel ou permanent, en vue de faciliter le bon déroulement de la mission que nous avons à mener. Les diverses fonctions constituent généralement des aides au ministère. Les deux sont utiles, nécessaires et complémentaires. Les conditions à l'engagement. Je ferai déjà trois rappels, qui sont des rappels des évangiles. On ne peut servir de maître. On ne peut servir de maître. Nous avons tous reçu un don. Et il faut s'asseoir et considérer à la dépense avant de s'engager. Alors, cela appelle trois exigences pour les conditions à l'engagement. Trois exigences qui doivent être prises de la part des responsables des églises. Il faut savoir donner du sens. En effet, il faut se souvenir que nous bâtissons bien que dans la mesure où nous respectons un ensemble de fondamentaux qui donneront de la cohérence à notre action. Si les gens ne savent pas à quoi ils s'engagent, ils doivent pouvoir comprendre pourquoi ils le font. La vision, c'est ce qui donne du sens à l'engagement. La deuxième exigence, je dirais qu'il faut accompagner l'engagement. C'est-à-dire permettre aux croyants de s'engager, c'est prendre du temps pour accompagner, mais c'est aussi prendre en compte un changement chez celui qui s'engage tout comme chez celui qui va aider l'autre à s'engager. L'Église a besoin de responsables crédibles qui montrent la voie. À ce titre, l'exemple est la façon la plus sûre pour donner de la pertinence à ce que nous voulons transmettre ou communiquer. La troisième exigence des conditions d'engagement, c'est qu'il faut valoriser. Chacun d'entre nous a besoin de savoir en quoi son engagement est vraiment utile au groupe et à la mission. Quel est son apport? Quel est son impact? Il doit se sentir impliqué et pas seulement concerné. Il faut savoir laisser à l'autre le soin de prendre des initiatives, donc de commettre des erreurs. La créativité chez l'autre dépend aussi du degré de liberté que nous lui accorderons. Nous devons apprendre à mettre l'accent sur les possibles d'une action et pas seulement sur les manques. L'encouragement passe par la reconnaissance de ce qui a été accompli et non pas de ce qui pourrait être réalisé, ce qui est très français. Enfin, pour conclure, comme ces trois sphères, famille, travail, Église sont amenées à cohabiter de manière pratique et sans être exhaustives, je vous propose trois pistes de réflexion. Apprendre à gérer son déséquilibre. Eh oui. Comme j'ai appris à gérer les imprévus, j'ai aussi appris à gérer le déséquilibre. Alors, je reconnais que ce n'est pas un discours qui fait le buzz. C'est vrai. Et dans cette difficulté, le facteur temps apparaît comme la première des frustrations. Contrairement à la conscience, il n'est pas élastique. Ce ne sont ni les recettes, auxquelles je ne crois pas, ni les méthodes, qui peuvent être une aide, mais seule la discipline que nous nous imposons qui peut nous permettre de nous rendre efficaces. Mais me direz-vous, pourquoi ne pas viser l'équilibre? C'est quand même plus fun. L'écrivain français Julien Gracq disait « Le rassurant de l'équilibre, c'est que rien ne bouge. » C'est une position inerte. Le vrai équilibre, c'est qu'il suffit d'un souffle pour tout faire bouger. Ça s'appelle le déséquilibre, ça s'appelle la vie. Deuxième réflexion, accepter ses limites. Connaître ses limites, c'est porter un regard lucide sur moi-même. C'est reconnaître ma dépendance à Dieu et ma dépendance aux autres. Aimer ses limites, c'est accepter sa vie, accepter son corps, accepter ses parents, accepter ses enfants, accepter les autres, frères et sœurs, avec leurs dons et leurs capacités, mais aussi avec leurs imperfections. C'est accepter les dons que Dieu m'a donnés, sans envie et sans regret. C'est apprendre à être content de l'état dans lequel Dieu nous place, sachant, comme nous aimons si bien le répéter aux autres, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, très jeune, celle qui allait devenir ma femme, et qui l'est maintenant, pour un de mes anniversaires, m'avait envoyé une petite phrase de Romain Rolland qui m'a toujours accompagnée. Le bonheur, c'est de connaître ses limites et de les aimer. Troisième et dernier point de cette conclusion, et notre frère l'a déjà un peu abordé, reconsidérer ses priorités. Reconsidérer ses priorités. Parce que les priorités ne sont jamais figées. Elles doivent tenir compte des situations et des circonstances. Parce qu'elles ne sont pas des excuses pour nous dédouaner, les décisions auxquelles elles nous conduisent ne doivent pas nous culpabiliser. Elles n'ont pas à se justifier, mais doivent pouvoir s'expliquer pour être comprises par les autres. Nous vivons dans une société de l'urgence. Et pour cause. Et pour cause. Je ferai juste une digression. Quand j'étais en activité, j'avais des collaborateurs qui ne vivaient que dans l'urgence. Alors sur mon bureau, j'avais une corbeille qui était réservée aux urgences. Et quand un collaborateur venait en disant « c'est urgent », je lui disais « bah tu vois, la corbeille elle est là, tu le poses ». Si dans les 2 heures qui suivaient, il n'était pas revenu pour me reparler de ce problème, c'était pas une urgence. Et le dossier passait autre part. Il nous faudra apprendre à discerner ce qui est prioritaire, ce qui est souhaitable et ce qui est non indispensable. Et à cultiver aussi notre indispensable, ça par contre c'est indispensable, notre indispensable dépendance à Dieu pour le découvrir et pour le servir. Alors, je ferai juste je vais vous raconter une petite histoire juste pour terminer. Je ne sais pas si vous connaissez, c'était un syndrome très connu en entreprise, mais qu'on connaît aussi en église, le syndrome de Love Bacon. Vous connaissez ? Vous ne connaissez pas le syndrome de Love Bacon. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire un œuf bacon ? Un œuf ? Du bacon, du jambon. Mais pour avoir un œuf et du bacon, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut une poule et un cochon. Mais le seul problème, c'est que dans Love Bacon, la poule, elle est impliquée, elle. Elle fait un œuf. Non, elle est concernée. Elle fait un œuf. Mais le cochon, lui, il est impliqué. Et bien, voyez-vous, dans l'entreprise comme dans l'église, beaucoup sont concernés et peu sont impliqués. C'est ce qui fait le syndrome de Love Bacon. Merci de votre patience.
Vous aurez deviné le menu du repas de midi, hein, peut-être. On verra. On va voir qui est impliqué ou pas. Merci en tous les cas, Claude, d'avoir aussi estimer la demande qu'on t'avait faite comme étant, alors je ne sais pas si c'était dans le domaine des choses prioritaires ou souhaitables, mais c'était au moins dans celles qui n'étaient pas dans le dernier panier, quoi. Voilà, merci en tous les cas à vous deux. Comme je disais ce matin, on garde nos questions et nos réflexions pour un temps de pour la table ronde qu'on aura cet après-midi, qui est plus un temps d'échange en fait, hein, on a besoin de vos réactions les uns des autres. Et j'aimerais maintenant laisser la parole à Rachel pour un premier témoignage. Il me semblait aussi important dans cette journée d'avoir des échos du vécu. Et donc Rachel a accepté, et après elle, Daniel, pour 2 témoignages. Merci.